L'objet ce soir est donc chasseur et berger. Et un verset est déjà proposé sous ce titre à notre méditation. Qui sera le pasteur qui se tiendra devant moi? C'est tiré du prophète Jérémie, chapitre 49, au verset 19. Du berger, nous en avons déjà beaucoup parlé ces jours derniers et nous allons encore, par la grâce de Dieu, en parler ce soir. Mais il me semble voir, berger, c'était une profession qui a jalonné toute la vie d'Israël, toute l'histoire d'Israël. Mais je crois voir d'autres professions qui se sentent peut-être un peu frustrées. Je pense aux cultivateurs, je pense aux pêcheurs, dont il est question assez fréquemment dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament. Permettez donc que on pense un peu à eux dans cette introduction pour faire peut-être un parallèle avec la vie du berger. Cultivateur, il en est question dès le début de la parole. Hélas, le premier dont il nous est parlé, c'est Caïn, qui refuse que la terre est maudite et qui veut à Dieu en apporter les fruits. Nous savons ce qu'est advenu. Mais cultivateur ou vigneron ou arboriculteur, nous les trouvons souvent dans la parole, et le Seigneur lui-même en parle dans le Nouveau Testament. Le cultivateur, contrairement au berger qui, lui, est nomade et se déplace, le cultivateur est attaché à la terre. Et cela demande de la patience, de la persévérance. Et si nous l'avons ignoré, l'épître de Jacques nous le rappelle. Et nous la présente comme exemple, ne l'oublions pas. Mais si j'ai tenu ce soir à dire quelques mots de cultivateur, c'est qu'il y eut quelqu'un un jour, et nous connaissons tous cette prophétie de Zacharie, qui nous parle beaucoup du berger. Quelqu'un dut dire, c'est au chapitre 13, « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre. » L'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. Est-ce que nous ne sommes pas frappés par cela? Et nous le comprenons très bien quand, dans Matthieu, chapitre 13, le Seigneur viendra lui-même parler, après ce refus de le considérer comme étant le Messie qui est venu, le roi qui est venu. Nous le voyons soudain parler comme d'un roi devenu laboureur, cultivateur, un semeur sorti pour semer sa semence. Notre Seigneur lui-même, cultivateur, un jour viendra où sur cette terre, pendant le règne de 1000 ans, chacun sera là, sous sa vigne et sous son figuier. Quel beau temps! Pêcheur aussi! On est frappé de voir que le Seigneur ne va pas choisir ses disciples tellement parmi des bergers. Il va les choisir parmi ses pêcheurs de Galilée. Et le Seigneur va rencontrer là, recruter un certain nombre de ses disciples. Et il pourra leur dire, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et cela reste valable quand il est question d'évangélisation. Il s'agit bien de pêcheurs d'hommes. Mais il leur dit aussi, et ne l'oublions pas, ils deviennent les bergers du troupeau de Dieu. Mais ce soir, le travail du pêcheur, comme nous le savons, si celui du cultivateur insiste sur la patience et la persévérance, celui du pêcheur peut être sur la pénibilité. On travaille de nuit, et puis il faut vendre ses poissons. Et puis la pêche, c'est toujours aléatoire. Et il peut y avoir également les difficultés, l'orage et le mauvais temps. C'est peut-être de cela que nous parle le pêcheur. Mais revenons aux bergers. Ils sont nombreux dans l'Ancien Testament. Et nous allons en voir quelques-uns. Comme nous le disions au début de cet entretien, la figure du berger jalonne donc toute l'histoire d'Israël. On le comprend. Les troupeaux étaient nécessaires déjà pour fournir le laitage, pour fournir la viande. Et ne l'oublions pas également, pour le service de Dieu, on avait besoin de beaucoup de bétail. Donc on avait besoin de bergers. Le premier berger dont il est parlé dans la parole, c'est Abel. Mais notre sujet est plus précisément chasseur et berger. Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas de mettre en contraste deux professions. Celle de chasseur, on la trouve au début de la parole, mais plus tellement par la suite. C'est plutôt de caractère. Alors fixons un peu ces deux caractères, avant d'entrer dans le détail des cas qui nous sont proposés. Le chasseur est quelqu'un qui s'approprie sa proie. C'est quelqu'un qui détruit, qui vit bien souvent aux dépens de sa victime. Il est, par là, comme caractère, dominateur, égoïste. Et puis, d'être chasseur, c'est bien souvent une passion. Contrairement à lui, le berger est disponible, il veille au bien de son troupeau, il se dépense sans compter, quelquefois même, nous le savons, au péril de sa vie. Mais s'il y a opposition entre deux caractères, il y a aussi opposition dans la parole, et c'est assez remarquable, entre deux lignées. Nous savons que Noé, après le déluge, plante une vigne. Il s'enivre, et l'un de ses fils, qui s'appelait Calme, découvre sa nudité, s'en moque un peu, semble-t-il, va le rapporter à ses frères, et aussitôt il est maudit par son père. Et nous lisons quelques chapitres après ce que va devenir cette descendance de ce fils maudit qui s'appelle Cam. Il va donner les Cananéens. Et parmi eux, dès le chapitre 10 de la Genèse, nous lisons au verset 8 le nom de l'un d'entre eux. Chapitre 10, verset 8. Cush engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Voilà déjà une lignée qui est fixée par un de ses ancêtres, par Nimrod. Un chasseur, puissant chasseur devant l'Éternel. Il va occuper Canaan, comme nous l'avons dit. Quelques lignes plus loin, nous voyons qu'il va fonder Babel, qui deviendra Babylone, qu'il va fonder Ninive, des villes sanguinaires. Des villes qui nous donnent tout le caractère du monde, de la puissance mondaine, comme nous le savons. Par contre, le premier des fils de Noé, qui s'appelle Sem, va donner comme lignée celle que nous trouvons détaillée au chapitre 11. J'en arrive au chapitre 11, et nous lisons simplement un ou deux versets de cette lignée, ou plutôt la fin de cette lignée, où nous arrivons donc, verset 24. Il y a donc dans cette lignée Nakhor, et puis Térakh, et Nakhor, après qu'il eut engendré Térakh, vécut tant d'années, engendra des fils et des filles, et Térakh, verset 26, vécut 70 ans et engendra Abraham, Nakhor et Haran. Et voilà donc deux lignées, la lignée des chasseurs, la lignée des bergers. Moralement, la lignée des chasseurs, donc de Nimrod, va donner des conquérants, des dominateurs, des destructeurs, nous l'avons vu. Parmi elles, hélas, nous trouverons moralement Ésaü, Saül, Jézabel, Athalie, Akab, Hérode, Saul, avant sa conversion, etc. Celle des bergers, Abel avant Noé avait été déjà un berger, mais parmi cette descendance de Noé, nous allons trouver au contraire ces bergers, qui eux sont caractérisés par ce que nous avons dit, cette disponibilité pour leur troupeau et le désir du bien-être de ceux dont ils ont la charge. Les types qui nous sont donnés, nous essayerons de les traiter par contraste. Et le premier contraste que je vous propose, il se trouve d'ailleurs tel que sur notre schéma, c'est Ésaü le chasseur, et Jacob le berger. En Genèse 25, nous lisons le verset 27. Les enfants grandirent, donc les enfants d'Isaac et de Rebecca. Et Ésaü était un homme habile à la chasse, un homme des champs. Et Jacob était un homme simple qui habitait les tentes. Isaac aimait Ésaü car le gibier était sa viande, mais Rebecca aimait Jacob. Ésaü et Jacob ont probablement connu leur grand-père Abraham. si nous regardons les dates qui nous sont données dans la parole, ils ont certainement connu Abraham jusque vers l'âge de 10 ou 15 ans, vraisemblablement. Et Abraham n'a certainement pas manqué de leur dire quel avait été pour lui l'appel de Dieu quand il habitait autrefois Ur des Chaldéens et que Dieu l'avait appelé à partir et à devenir un berger. Et puis ils ont vu que leur père Isaac avait été aussi pendant toute sa vie habitant sous des tentes et était berger lui-même. Et ils savaient très bien que la famille de leur mère aussi, du côté de Nakhor, de Laban, de Bethuel, c'était aussi des familles de bergers. Ils savaient tout cela. Et voilà que le premier de ses enfants prend le caractère moral du chasseur, devient d'ailleurs un chasseur. Il renie bien des choses. Il renie déjà son droit d'aînesse. Il renie ensuite son ascendance de berger. Il préfère la lignée des chasseurs à la lignée des bergers. Et voilà que Ésaü devient un chasseur avec tout ce que cela signifie. La passion du chasseur, la violence du chasseur, etc. Jacob aime la maison, il aime la tente, mais mal conseillé par sa mère, comme nous le savons, il va devenir, au départ en tout cas de sa carrière, un trompeur. Un mauvais caractère pour un berger. Pourtant, arrivé chez Laban, il va trouver plus fort que lui. Laban va bien l'accueillir. Il avait largement ouvert sa maison quand Eliezer, que le serviteur, était venu autrefois chercher Rebecca, parce qu'il avait des biens avec lui. Mais ce pauvre garçon qui arrive là sans rien, heureusement qu'il était le fils de Rebecca. Sinon, la porte l'aurait été, nous pensons, fermée. Et nous entendons cet accueil de Laban au chapitre 29, et nous lisons verset 13. Laban apprit les nouvelles de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'embrassa, le baisa, le fit entrer dans sa maison, mais très vite on le met aux affaires. Eh bien, on va te garder, mais déjà à l'essai pour un mois. Ton salaire, ah, tu voudrais un salaire, eh bien, quel sera-t-il son salaire? Eh bien, je désirerais bien avoir comme femme une de tes filles. Ah bien, alors lui répond Laban, et c'est le verset 19, mieux vaut que je te la donne que de la donner à un autre homme. Eh bien, tu peux rester, et je te l'aurai. Et il voudrait Rachel, et il aura Léa. Connaissons l'histoire. Jacob, malgré tout, sera un excellent berger. Excellent berger, dévoué, efficace, mais rusé. Mais voyons quand même tout l'effort qu'il a fourni au chapitre 31, versets 38 à 40, parce que nous trouvons là vraiment les caractères d'un vrai berger. Verset 39, je ne lis pas tous les détails, nous les connaissons déjà, mais au verset 39 de ce chapitre 31, « Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté, moi j'ai dû en souffrir la perte. » Tu as redemandé de ma main ce qui m'avait été volé de jour et ce qui m'avait été volé de nuit. J'en étais là que de jour la sécheresse me dévorait et de nuit la gelée et mon sommeil fuyait mes yeux. Tu as changé 10 fois mon salaire. Il a connu la rude vie du berger, mais il a été dans ce temps-là un excellent berger. Excellent berger, oui. Pour ses troupeaux. Mais il a été pendant toute cette période-là beaucoup plus attentif au bêlement de ses moutons qu'aux besoins de ses enfants. Et ceci nous parle beaucoup. Et quand on arrive à Genèse 35, quand il revient à Bethel, où il était passé il y a longtemps, chargé d'enfants, chargé de famille, Dieu va lui dire, monte à Bethel, monte, non pas montez en famille, je ne la connais pas ta famille, d'ailleurs leur as-tu jamais parlé de moi, sa famille ne connaît pas Dieu. Et Jacob, le bon berger de ses troupeaux, prend conscience qu'il a été mauvais berger pour sa famille. Il en subira les conséquences, il y aura un prix à payer, et le prix sera très lourd à payer. Mais nous connaissons l'histoire, allons plus loin. Et arrivons au chapitre 48. Il a donc dû descendre en Égypte, où Joseph, son fils, qu'il croyait longtemps perdu, l'appelle, et là, arrivé en Égypte, après un certain séjour, où il aura eu l'occasion, ce patriarche, mûri par Dieu, mûri par l'épreuve, se trouvant en face du Pharaon, lui le berger, bénira le grand Pharaon d'Égypte. Et puis, après le Pharaon, il va songer à ses petits-enfants. Et c'est la scène que nous avons dans ce chapitre 48. Nous pensons donc au verset 8 jusqu'à 16, mais nous lisons simplement alors la bénédiction qu'il leur donne au verset 15. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. » Il y a deux choses qui nous frappent là. Il y a deux choses. Il y a d'une part le geste que fait Jacob. Nous voyons Jacob, un vieillard que Dieu va bientôt retirer, croisant ses bras, croisant ses mains pour bénir ses deux petits-enfants. Et il pense à ce moment lointain où lui-même a extorqué la bénédiction de son père Isaac. Dieu aurait pu faire aussi dans ce moment-là, s'il avait été docile et obéissant, que Dieu permît qu'Isaac croisât ses mains pour bénir Jacob, le plus petit, et lui donner la plus grande bénédiction. Mais il avait trompé, et il en avait subi les conséquences. Deuxième chose, une des conséquences, le Dieu devant lequel on marchait, c'est cette parole, « Mes pères ». Il n'ose pas dire, on en a déjà parlé, que lui ait marché devant Dieu. Mais il peut dire que Dieu a été son berger. Quelle belle confession. Moi, je n'ai pas marché comme j'aurais dû marcher, comme ont marché mes pères, mais Dieu a été mon berger. Et puis, dans le chapitre qui suit, ce sont les paroles du prophète. Ce sont des paroles de prophète dans lesquelles, à travers Joseph, il pourra lever les yeux vers un plus grand berger, verset 25 de ce chapitre 49. Sans oublier l'amertume qu'il y a eu quand les fils de Joseph, mais nous y reviendrons. Il dit là, dans ce verset 25, « De là est le berger, la pierre d'Israël. Son œil n'est pas usé, son œil n'est pas éteint. Il voit très loin, et dans cette prophétie, à travers tous ses enfants et leurs descendants, il voit un plus grand berger, plus grand que son père Abraham, plus grand qu'Isaac, qui lui est vraiment le berger, sera le berger d'Israël. » Deuxième contraste, les dix patriarches et Joseph. Il y avait eu des préférences dans la famille d'Isaac et tout avait basculé. Il y a à nouveau des préférences dans la famille de Jacob, et tout va basculer. Il préfère le fils de l'épouse bien-aimée, le premier enfant de Rachel, et cela va être lourd de conséquences, comme nous le savons. Il nous est dit dans Actes 7, concernant les patriarches, qu'ils étaient pleins d'envie. Les voilà qui prennent, ces dix patriarches, les caractères d'un chasseur. Ils sont pleins d'envie vis-à-vis de Joseph, nous le savons. Ils ont de la haine pour leurs frères. Ils deviennent des hommes violents. Ils veulent à tout prix le faire disparaître. Et puis, quand ils croient l'avoir fait définitivement disparaître, ils vont s'user vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de Joseph, quand ils reviendront, de dissimulation et de mensonge, jusqu'au jour où il faudra payer pour tout cela et confesser tout cela, la belle confession de Judas que nous connaissons. Caractère de chasseur chez les dix patriarches. Nous courbons la tête. Par contre, nous le trouvons déjà au chapitre 37, quand son père l'envoie prendre connaissance de l'état de ses frères. On a parlé beaucoup ces jours-ci de sous-bergers. On peut dire que dans ce moment-là, les dix patriarches qui sont au champ sont des sous-bergers. Joseph, il n'est pour le moment que le petit commis des sous-bergers. Mais il est fidèle. Mais il est fidèle. Il va, il cherche, il erre dans les champs, puis il finira par trouver. Il sera vendu, nous le savons. Mais après son élévation, nous passons sur son histoire, il va être d'une part celui qui nourrit sa famille, et c'est la période qui nous intéresse. Il la nourrit avec soin. Il double même la ration de ses frères. Puis il va être celui qui, quand ils seront revenus en Égypte pour l'habiter avec leur père, à Jacob, va leur donner des pâturages en Goshen. Nous trouvons ça au chapitre 47. Et puis plus que cela, au verset 6 de ce chapitre 47, nous voyons qu'il les fait, le pharaon étant d'accord, chef des troupeaux du pharaon. Voilà un vrai berger qui, sans aucun ressentiment pour sa famille et pour ses frères, qui pourtant avaient désiré le faire mourir, prend soin d'eux ainsi jusqu'à la fin, leur donnant de la pâture, les nourrissant, leur donnant des champs, les faisant chefs bergers, eux qui étaient des sous-bergers. Mais surtout, dans les bénédictions de Jacob, nous voyons ce que Jacob peut dire de lui. Et nous revenons à ce chapitre 49, où je voulais justement lire ces deux versets, 23 et 25. Jacob pourra dire, les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Mais son arc a été demeuré ferme. Et verset 25, de là est le berger, la pierre d'Israël. Ceci est très beau alors que dans cette prophétie touchant Joseph, il y a d'une part le rappel de l'action des chasseurs contre lui. Les archers l'ont provoqué. Et puis surtout donc, la vision beaucoup plus lointaine. Joseph devient un premier-né. Il remplace, c'est 1 Chronique 5 qui nous le dit, Ruben. Mais la vision va vers un autre premier-né qui un jour alors sera le vrai berger d'Israël. Troisième contraste, Pharaon et Moïse, ou plutôt les pharaons. Pourquoi les pharaons? Donc, ils n'entrent pas dans la lignée des hommes d'Israël, mais simplement, il y a eu beaucoup de relations entre les pharaons et Israël, et en particulier, nous rappelons cette bénédiction dont nous avons parlé tout à l'heure, de Pharaon par Jacob. Les pharaons ont l'esprit des chasseurs. C'est le pharaon qui fait jeter les petits enfants hébreux nouveau-nés dans le fleuve. Tempérament de chasseur, destructeur. Pendant plusieurs générations, ils vont opprimer les Hébreux. Et quand Moïse voudra partir avec le peuple d'Israël, au-delà de la mer Rouge, il va le poursuivre avec toute son armée pour faire disparaître le peuple hébreu tout entier, malgré les grands jugements qui ont fondu sur son pays. Et Dieu va les arrêter. Tempérament de chasseur. Et en face d'eux, Moïse. Moïse, un berger. Moïse que Dieu va faire passer par trois classes successives. Sa famille, sa vie est divisée en trois parties, comme nous le savons. Il va y avoir deux classes de formation de 40 ans chacune, et puis une dernière classe à partir de l'âge de 80 ans, qui va être la classe d'application. La formation étant terminée. La première classe, elle se passe à la cour du pharaon, jusqu'à cet âge de 40 ans. Quelle culture! Il se cultive, il apprend les arts, il apprend les lettres, il apprend beaucoup de choses. Cela nous est dit en plusieurs endroits dans la parole, mais il comprend bientôt qu'il est là à une école de chasseurs, l'école des exacteurs, de ceux qui oppriment son peuple. Il est là, Hébreux 11, au milieu des délices du péché. Un jour, sa foi ne lui permet plus de rester là. Il le refuse et il s'en va. Mais il commence sa carrière, une fois sorti de la cour du pharaon, par un acte de chasseur. Il assiste à une lutte, à une colère, à une rixe entre un Israélite qui est opprimé par un Égyptien. Il tue l'Égyptien. C'est un acte de chasseur. Il doit se sauver. Alors va commencer pour lui la deuxième classe de formation. Après la classe de formation des chasseurs, qui s'est mal terminée, c'est la classe de formation d'un berger. Elle se passe derrière le désert. Grande leçon de patience, grande leçon d'humilité, grande leçon apprise dans la solitude d'un désert. Jacob était resté 20 ans chez Laban, lui restera 40 ans derrière le désert avec ce troupeau. Pas son troupeau, le troupeau d'un autre, qui deviendra son beau-père, nous le savons, mais pas son troupeau. Et il faut là beaucoup de disponibilité pour s'occuper du bien des autres. Quand il aura terminé les soins donnés à son troupeau, après cette longue période, il aura appris bien des choses. Il avait appris en Égypte ce qu'était le monde. Il a appris là dans le désert, derrière le désert, à se connaître lui-même. Et nous voyons combien lui qui était l'homme bouillant à 40 ans devient l'homme réservé à 80 ans. Je ne sais pas parler, je ne sais pas. Il y a là deux choses. Une grande leçon d'humilité qui a été apprise, mais aussi peut-être un manque de disponibilité à l'heure où Dieu l'appelle. Il avait voulu partir avant l'heure, et Dieu lui avait dit « ce n'est pas l'heure ». Et quand c'est l'heure de Dieu qui sonne au cadran de sa vie, il n'est plus d'accord. C'est un risque dans nos vies aussi. Sachons être disponibles à l'heure où Dieu appelle. Mais, Dieu insistant, Moïse va partir et commence pour lui alors la troisième classe. Elle sera difficile, 40 ans dans un désert, pour un homme qui va le commencer au moment où lui-même fixe la limite de ceux qui sont vigoureux dans son psaume 90. C'est là que tout commence pour lui. La vie dans le désert, oh certes, il en connaît déjà. Il en a appris à connaître les pistes, les sources, et puis les chemins, tout cela pendant qu'il gardait son troupeau. Mais il se rendra compte que cette connaissance-là ne suffisait pas. Il faut tout réapprendre. Et il va tout réapprendre avec Dieu. Et le secret de la réussite de ce berger conduisant le troupeau d'Israël. Nous la trouvons, nous l'avons déjà lu, mais relisons dans Nombre chapitre 7, ce dernier verset du chapitre 7, le verset 89 de ce long chapitre. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec lui, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire, qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Le grand secret de cette réussite, c'est sa communion avec Dieu. Sa communion avec Dieu. Nous avons une très belle expression concernant toute cette période. C'est dans Ésaïe 63. Nous lisons juste un verset dans Ésaïe 63 qui nous parle de toute cette période de la traversée du désert sous la conduite de Moïse comme berger. À la fin de ce chapitre, verset 11. Il se souvint des jours d'autrefois, de Moïse, de son peuple. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mit l'esprit de sa sainteté au-dedans de lui, son bras magnifique les faisant marcher par la droite de Moïse, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom à par les abîmes, comme un cheval dans le désert. Ils ne bronchaient pas, comme une bête descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel leur donna du repos. Ainsi tu as conduit ton peuple pour te faire un nom magnifique. Il y a pourtant une défaillance dans la vie de Moïse. Au moment où il est appelé à parler au rocher, il se met en colère, il frappe le rocher et il n'entrera pas dans le pays. Oui, il n'entrera pas dans le pays. Mais en Deutéronome 34, nous le savons, tout à la fin de sa carrière, la dernière classe, la dernière heure de la dernière classe terminée, Dieu vient comme le prendre, et au moment où montant sur le mont Nebo, le peuple ne voit plus son conducteur, Dieu vient l'accompagner pour ce dernier voyage, accompagner son berger, le berger du troupeau d'Israël, et lui montre tout le pays promis. Le pays dans lequel, un jour, régnera, dominera un plus grand berger que Moïse. Cette fin de Moïse, accompagné de Dieu, est quelque chose de remarquable. Quatrième contraste, Saül, David. Saül, tempérament de chasseur, un guerrier, un tourmenté, un impulsif, un violent, nous le savons. Bien sûr, il va quand même affermir le royaume d'Israël, mais il ne supporte pas l'enthousiasme que suscite David chez beaucoup. Il veut s'en défaire. Plus même, comme son fils Jonathan s'attache à David, il supprimera, s'il le faut, Jonathan avec David. Nous entendons David dans 1 Samuel 26, je lis simplement ce verset fin, s'adressant à Saül, le roi dit toujours, dit, pour chercher une puce, comme on poursuivrait une perdrix sur les montagnes. Voilà donc ce chasseur qui poursuit quelque chose qui était quelque chose d'insignifiant dans ce moment-là. Effectivement, David n'avait aucune puissance. Saül, un chasseur. En face de lui, David, un berger. Dès l'adolescence, berger exceptionnel. Il nous le révèle, il le révèle à Saül, mais plus tard. Il n'en a pas parlé, semble-t-il, à qui que ce soit, même pas à sa famille. Et dans 1 Samuel 17, dans les versets 34 et 35, nous l'entendons dire à Saül, « Ton serviteur paissait le menu du bétail de son père, et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau, et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule, et il se leva contre moi, je le saisis par la barbe, et le frappai, et le tuai. » Il est qualifié, celui-là, qui dans le secret a pu tuer le lion et l'ours pour protéger une brebis de son troupeau. Il est qualifié pour devenir le berger que Dieu veut choisir. Il va d'abord délivrer le peuple contre quelqu'un qui représente tous les chasseurs, Goliath. Il va le faire. Il va le faire, et c'est très beau, avec des instruments de berger, parce qu'il sait qu'avec ses instruments de berger, il combat les combats de l'Éternel. C'est lui qui le dit, et Dieu lui donne la victoire. Et dès lors, il va être qualifié pour conduire le peuple d'Israël. Nous aimerions que l'histoire de David se poursuive ensuite par celle d'un bon berger conduisant bien le troupeau d'Israël. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais tout berger a ses défaillances. Je ne voudrais pas beaucoup le souligner, mais signaler quand même que même un berger tel que David peut devenir un jour un voleur de brebis. David lui-même est devenu cela. Pourquoi ? Pour avoir pour un moment manqué de vigilance. L'histoire d'Uri, l'histoire de Bathsheba, nous la connaissons. La parole du prophète qui vient trouver David, nous la connaissons. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 3. Mais le pauvre, lui dit le prophète, n'avait rien du tout qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée et qu'il nourrissait et qui grandissait auprès de lui. Ah, dit David, il rendra la brebis au quadruple. Il fixe ainsi lui-même le prix qu'il lui faudra payer. Il y aura pour David également une deuxième faute. Nous le savons. C'est au moment où il va lui-même dénombrer le peuple. Il dénombre le peuple, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et nous trouvons dans 2 Samuel 24 cette belle parole de David. Il a péché par orgueil, là. Il a péché par orgueil, il avait de la première fois manqué de vigilance, et là, il va pécher par orgueil. Et que va-t-il dire alors, quand Dieu va lui donner par Nathan, le prophète, le choix entre trois jugements? Il va choisir de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il va choisir de tomber, je suis dans une grande détresse, que nous tombions, je te prie, verset 14, dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Et alors c'est la peste qui est envoyée. On a parlé cet après-midi de la lèpre, mais la peste c'est quelque chose de beaucoup plus redoutable et rapide. Et il voit, lui, le berger, toutes les brebis de son troupeau qui tombent les unes après les autres, jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Et alors il peut dire, et cette parole qui nous touche, « Voici moi, j'ai péché, et ces brebis, mais ces brebis, qu'ont-elles fait ?» Ses brebis qu'ont-elles fait? Mais David sera, quoi qu'il en soit, un bon berger. non pas pour sa famille, comme nous le savons, mais pour le peuple d'Israël. Et si Jacob avait pu terminer sa carrière les yeux fixés sur l'avenir et de façon prophétique parler de l'avenir d'Israël, lui le termine, si l'on peut dire, par cette confiance dans son berger, ce psaume 23 que nous aimons toujours lire et à relire, dans lequel cette brebis, finalement lui étant berger, restait toujours, et il en a peut-être davantage conscience ensuite qu'il restait entre les mains d'un plus grand berger que lui. Cinquième contraste, c'est Amos. Il y a au temps d'Amos et avant Amos de faux bergers. Il y a avant Amos tous ceux qui auraient dû être un siècle avant des bergers d'Israël, qui vont être des Akab, qui vont être des Jézabel, qui vont être des Athalie. Il y en a encore de ces faux bergers du temps d'Amos. Le Seigneur parle de ceux-là qui sont des loups redoutables et qui sont déguisés en habits de bergers. Ils ont existé de tous les temps. Il y aura peut-être simplement trois rois qui pourront être des rois bergers en Juda. Josaphat, Ézéchias, Josias. Et puis, tout à la fin de cette période-là, il va y avoir en Juda, dans un tout petit village à côté de Bethléem, à Tekoa, un petit berger qui va garder son petit troupeau et qui, pour se faire un peu d'argent, aura besoin encore d'aller cueillir les fruits des sycomores, des petites figues qu'il cueille ainsi aux arbres, pour avoir un petit pécule. Et voilà que Dieu l'appelle, il l'a vu, quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui sait bien soigner son troupeau, quelqu'un qui en plus vient cueillir les fruits, les petits fruits, pour qui tout a de l'importance, et il va lui confier, non pas le troupeau de Juda, il l'envoie en Israël, dans les 10 tribus d'Israël, et il l'envoie là-bas pour porter sa prédication. Et nous avons dans Amos 7, et au verset 14, on sait où c'est depuis cet après-midi. Je lis simplement les versets 14 et 15, où il peut dire, alors, « Je n'étais pas prophète, et un peu plus loin, et l'Éternel me dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël, et alors il va surtout dénoncer toutes les injustices qui étaient là en Israël. » Et sa prophétie est jalonnée, comme nous le savons, d'expressions que nous connaissons bien, mais nous ne savons pas toujours que c'est dans Amos. J'en lis simplement trois. Au chapitre 3, le verset 3, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Il va dire encore au verset 6, « Sonnera-t-on de la trompette dans une ville, et le peuple ne tremblera-t-il pas ?» Voilà des avertissements qui sont donnés. Chapitre 4, verset 11, « Vous avez été comme un tison sauvé de l'incendie. » Verset 13, « Prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. » Voilà tous les avertissements qu'il donne à Israël. Un langage très percutant, un langage d'un berger qui était habitué à des choses concrètes et qui parle de façon concrète. Tel nous est présenté ici, donc, Amos. Sixième contraste, Hérode et les bergers de Bethléem. Hérode, l'Iduméen, descendant d'Ésaü. Hérode, donc, un chasseur sanguinaire. Lui aussi, comme le pharaon autrefois, il fait mourir les petits-enfants, Matthieu 2, nous le savons. En contraste, les bergers de Bethléem. Nous connaissons leur histoire en Luc 2. Ce sont de petites gens sur la terre de Juda, ce sont des méprisés, et c'est eux qui sont appelés à délivrer le message divin. Ils ne seront pas étonnés quand l'ange leur aura parlé, quand ils seront allés à la crèche, dans l'auberge qui leur est désignée, de trouver là, emmailloté, couché dans la crèche des brebis, quelqu'un qui est là, comme un petit agneau de leur troupeau. Et eux rendent hommage à ce petit agneau que plus tard, 30 ans plus tard, Jean le Baptiseur va présenter. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils l'ont vu tout petit dans la crèche des brebis, et ils ont dit « Gloire à Dieu !» Le dernier, Saul, qui va devenir Paul. On peut donc avoir deux visages. Paul, avant sa conversion, est un chasseur. Et de chasseur, Dieu va faire un berger. Oh, on aurait pu mettre à la place de Sol les fils de Zébédée. Boanerges, leur dit le Seigneur, fils du tonnerre, on aurait pu mettre Pierre aussi, avec sa spontanéité, sa violence quelquefois. On aurait pu mettre notre nom à plus d'un d'entre nous. Sol, un vrai chasseur. Il était un brillant chasseur. C'est pourquoi le Sanhédrin l'avait choisi pour aller persécuter les chrétiens. Et nous le voyons, persécutant le troupeau de Dieu, et confessant et avouant, bien des années plus tard, en acte 26, sa détermination. « J'ai pensé en moi-même, acte 26, verset 9, qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus le Nazaréen, ce que j'ai fait aussi. Quand on faisait mourir, j'y donnais ma foi. Mais sur le chemin de Damas, tout va changer. Il faut peu de temps pour le Seigneur, pour arrêter quelqu'un. Saul devient Paul, et dès lors il devient un berger qui va se dépenser nuit et jour pour son troupeau. Nous connaissons ces beaux versets dans Acte 20, lisons-les une fois de plus pour bien nous les mettre en mémoire. Versets 19 et 20. Servant le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs, comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je vous eusse pas prêché et enseigné publiquement dans les maisons insistantes et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des passages que nous connaissons bien. Et puis, au verset 34, il semble leur dire, au moment où il va les quitter, « Voyez mes mains. Il a été, coûte que coûte, de jour et de nuit, un berger fidèle, un berger fidèle. Mais sa fidélité l'a conduit très loin. Et nous savions déjà que le bon berger met sa vie pour ses brebis. Mais il y a aussi des sous-bergers qui, par amour pour leur berger, ont donné, ont laissé leur vie. Paul est un de ceux-là. Il est parti en martyr, et il attend maintenant ce jour futur que nous attendons tous, où l'agneau lui-même, qui est au milieu du trône, paîtra alors, cette expression d'Apocalypse 7, paîtra son troupeau et le conduira aux fontaines des eaux de la vie. Est-ce que nous sommes nous-mêmes, brebis de ce même grand berger, que tant de serviteurs ont servi au péril de leur vie, et quelquefois même jusqu'au martyr. Tel est l'exemple que Paul nous donne. On ne peut pas terminer sur une note trop pessimiste l'histoire de David. J'aimerais simplement lire les dernières paroles de David que nous trouvons au psaume 72, et qui sont ceci, les versets 18 et 19. « Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des choses merveilleuses, et béni soit le nom de sa gloire à toujours, et que toute la terre soit pleine de sa gloire. Amen, oui, amen, les prières de David, fils d'Isaïe, sont finies. »
Et on chantait debout la deuxième strophe de l'hymne 170.
Notre frère nous a fait un peu sourire et pourtant m'a fait bien réfléchir tout en l'écoutant. C'est l'expression du petit commis des sous-bergers. Cet après-midi, nous avons, avec une certaine émotion, avec joie, entendu environ 80 enfants qui chantaient. Ils étaient des petits commis des sous-bergers. Pourquoi ? Parce qu'ils apportaient un message du Seigneur Jésus. Un message qu'ils avaient reçu dans leur cœur, un message qu'ils transmettaient. Et ce message, ce n'est pas un message qu'ils ont appris spontanément, mais il y a des parents qui sont derrière, qui ont élevé ces enfants, qui les ont élevés dans le Seigneur, et qui leur ont montré ce qu'il y a dans sa parole, qui leur ont appris à prier, à lire la parole, à chanter. Que vont-ils devenir? Eh bien, nous pouvons bien les remettre entre les mains du Seigneur. Et cela m'a fait penser à d'autres petits commis de sous-bergers. Par exemple, Samuel. Samuel a été envoyé au temple par sa mère. Pourquoi faire? Pour allumer le chandelier, pour nettoyer le temple, pour faire de petits travaux. Quelle était l'attitude de sa mère? Sa mère venait chaque année lui apporter 3 robes. Elle venait pas seulement lui apporter 3 robes, pensez bien, elle venait voir ce qu'il advenait de son fils, elle venait lui apporter de l'affection, du réconfort, tout ce qu'une mère peut apporter à son fils. Puis ensuite, en tournant ma Bible, je suis venu vers David. David était un jeune garçon qui gardait les troupeaux. Mais quelle a été sa première action quand il est venu vers Saül? Il a apporté sa harpe, son instrument de musique qu'il savait utiliser. Petite chose, petit instrument. Mais ce petit instrument avait une puissance extraordinaire parce qu'il était utilisé par Dieu pour calmer Saül dans ses crises épouvantables. Ézéchias, il nous a dit qu'il a été élevé par sa mère. Il était roi à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qu'il est dit de lui? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et enfin, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été élevé avec un soin tout particulier par ses parents. Il est beau de lire les passages dans l'Évangile de Luc pour revoir les soins avec lesquels les parents de Jean-Baptiste sont occupés de lui. Choisissant un nom particulier, choisissant un nom que le Seigneur le montrait, alors spontanément le petit bébé loue Dieu et tout le monde s'en étonne et tout le monde est frappé. Un bébé, un petit commis du sous-berger. Eh bien, il y a beaucoup de parents ce soir, cela doit nous frapper. Avons-nous parmi nos enfants des petits commis de sous-berger? Certainement. Prions pour qu'ils deviennent des bergers. Je dirais pour cela, encourageons-les dans les petits services qu'ils accomplissent dès leur jeune âge. Ça paraît petit, ça paraît humble de jouer un instrument de musique. Ça paraît humble de faire du nettoyage, d'allumer des bougies. Ça paraît humble à l'âge de 5 ans d'être couronné roi. Ça paraît humble, jeune homme, de partir dans le désert comme Jean-Baptiste. Mais soyons des parents qui appuyons nos enfants, qui les soutenons, qui les orientons, qui les dirigeons dans le chemin du Seigneur et encourageons-les dans leur petit service. Prions pour que le Seigneur bénisse leur petit service. Ils pourront un jour, dans la grâce du Seigneur, accomplir de grands services.
Particulièrement aussi un encouragement pour nos sœurs, parce que dans le cas qui nous a été cité de Samuel, il semble que la mère de Samuel avait une vision spirituelle de cette situation terrible qui était de ce jour-là. Il y avait Élie et ses fils. Et nous voyons que par sa foi, par sa vision, un homme a été suscité qui a pu amener le peuple de Dieu à des hauteurs uniques, on pourrait dire, parce que quand Samuel a été repris, David était déjà loin et c'était le roi d'après le cœur de Dieu. Et plutôt encore, une parallèle, nous voyons aussi le peuple d'Israël en Égypte, dans une situation tout à fait terrible. Et il y a une femme, Jochebed, qui a une vision. Ce bébé, il est beau pour Dieu. Je vais le garder, je ne vais pas le jeter dans le Nil. Et ce petit garçon qu'elle élèvera tant qu'elle pourra, l'ayant reçu de nouveau de la fille du Pharaon, n'est-ce pas? Celui-là, comme nous l'avons entendu, changera la destinée du peuple d'Israël et deviendra celui qui les libérera de l'esclavage. Mais ce n'est pas merveilleux de voir que deux mères qui avaient une vision spirituelle et qui ont aussi eu la détermination d'employer ce que leur Seigneur leur avait confié, d'être une mère pour un petit garçon, pour chercher à donner à ce petit garçon tout ce qu'il fallait, qu'il devienne une fois des grands hommes de Dieu qui ont aidé le peuple de Dieu d'une manière merveilleuse. Nous avons parlé de nos sœurs, des bergères, Et je crois que si le Seigneur vous a confié des enfants, des petits-enfants, ou même si vous n'avez pas vos propres enfants, n'y a-t-il pas la possibilité de chercher des enfants dans le voisinage pour faire du travail parmi les enfants et qu'ainsi, peut-être, le Seigneur puisse vous employer dans la même manière.
Dans le sens de ce qui vient d'être dit à la mère du jeune roi Josias, Josias qui est nommé roi à l'âge de 8 ans, il est dit de sa mère qu'elle s'appelait Jedida, bien-aimée. Probablement qu'elle a été en bénédiction pour son petit Josias.
D'abord le Messie dans sa gloire, et ensuite c'est le Fils bien-aimé du Père, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Mais quand il regarde, il n'y a plus que Jésus seul.
C'est magnifique et à la fois très sérieux de constater la sainteté et la grâce de Dieu face à ses serviteurs. On est toujours étonné que Dieu ait dit non à Moïse quand il lui demandait, après qu'il ait commis cette erreur en frappant le rocher deux fois, en frappant le rocher une deuxième fois, que Dieu lui ait dit qu'il ne pourrait pas entrer dans le pays. Et quand Dieu lui dit à un moment donné, ne me parle plus de cette affaire. Et on se dit, comment est-ce que Dieu peut parler comme ça à celui à qui il parlait bouche à bouche, face à face, son serviteur Moïse. Et pourtant, ça montre le sérieux, la sainteté de Dieu. Puis, d'un autre côté, il y a la grâce de Dieu, comme on l'a vu. Dieu a été avec lui jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il était en communion avec lui. La même chose s'applique à David. David a confessé son péché. On a vu ce cas terrible d'Urie, et au fond, Nathan est venu vers David et lui a dit « Tu es cet homme » quand il a condamné l'homme qui avait voulu prendre, qui avait voulu agir en chasseur. Et alors, David se repent. Et on voit dans le psaume 51, c'est tellement beau de voir cette repentance de David. Au verset 3, au verset 1 déjà, « Use de grâce envers mon Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes transgressions, lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. » Et puis, simplement à la fin, au verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » Et malgré tout, David a dû souffrir du gouvernement de Dieu tout le reste de sa vie. Tout le reste de sa vie, il y a eu le gouvernement de Dieu. Ce qui s'est passé avec ses fils. Et il a dû le supporter. Et pourtant, on sent cette merveilleuse communion entre Dieu et lui, malgré l'épreuve continuelle qu'il a. Il est près de son Dieu. Il est en communion avec lui. Et comme le disait notre frère Pierre, il y a un moment, on pense qu'il pouvait continuer à dire le psaume 23 après, encore plus, après qu'il a compris qu'il était restauré. Mais il y avait le gouvernement de Dieu. Et alors, ce qui me frappe tellement, c'est le contraste entre le chasseur Saül et comment il a fini sa vie. Saül, lui, il avait très très bien commencé. C'était étonnant de voir comme Saül a commencé sa vie. Il était rempli de l'esprit. Il y a des choses remarquables qu'il fait. Et puis, tout à coup, Saül commence à agir en chasseur. Il veut se substituer à Dieu une première fois parce qu'il est impatient, parce que c'est un chasseur. Il ne peut pas attendre que Dieu vienne. Il sent qu'il y a un danger, qu'il y a un grand danger pour l'armée, pour son peuple. Et il veut vraiment le défendre. Mais il dit, il faut passer par Dieu. Alors, c'est lui qui veut se substituer au sacrificateur, qui veut être le représentant de Dieu sur la terre, ce qu'il ne peut pas faire. Et en fait, il veut agir indépendamment, spontanément, en se disant, c'est quand même bien, je ne veux pas me battre sans être en contact avec Dieu, mais par mes moyens, pas comme Dieu le veut. Il est impatient. Et puis, à la fin de sa vie, de nouveau, il est pris dans une grande angoisse face aux Philistins. Et il a affaire alors à une revenante, lui qui voulait supprimer, qui avait supprimé avant la sorcellerie à toutes ses dents. 1 Samuel, chapitre 21, verset 3. Il fait appel à une revenante, à une sorcière, qui, au fond, fait revenir Samuel. Et Samuel lui parle donc. À Saül, il est dit, tu es complètement rejeté.
28.
Verset 3. Et Saül avait ôté du pays des évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Ce qui était bien. Et puis au verset 5. Et Saül vit le camp des Philistins et il eut peur et son cœur trembla très fort. Et Saül interrogea l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Mais quel contraste entre Moïse à la fin de sa vie avec Dieu, entre David à la fin de sa vie avec Dieu. Et puis là, Dieu ne lui répond pas. Il a voulu faire ce qu'il lui voulait. Il a voulu être en contact avec Dieu par ses propres moyens. Et il essaye encore une fois. Il dit au verset 7, il dit « Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, etc. » Mais je crois qu'il y a d'important, c'est de voir qu'il essaye à la fin de sa vie de chercher l'Éternel et il ne le répondit pas ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Quel contraste entre le berger David et le chasseur Saül. Et je pense qu'il y a un dernier exemple, c'était Pierre ce matin qui lui aussi a agi en chasseur spontanément, qui tout à coup a été par lui-même, qui a dit au Seigneur « J'arriverai tout seul ». C'est aussi lui qui a enlevé l'oreille de l'esclave du souverain sacrificateur. Il a agi de par lui-même, il a agi en chasseur. Et puis, ce Pierre, une fois qu'il a été restauré, eh bien, il a retrouvé cette pleine communion avec le Seigneur. Mais Judas ne l'a pas retrouvé.
Au gouvernement de Dieu envers David, quand même, 2 ou 3 versets à lire dans 2 Samuel 12. Il dit que l'enfant de Bathsheba est mort. Au verset 22, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné, j'ai pleuré, car je disais, qui sait, l'Éternel me fera grâce et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire revenir encore? Moi, je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. C'est la première brebis. C'est ce petit enfant. David pleure et supplie, mais l'enfant meurt. Mais David a ce sentiment, cette foi, si l'on peut dire, mais diffuse. Je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. C'est voilé, mais il y a la pensée de la résurrection. Quand Absalom est mort, 3e brebis, chapitre 18, verset 33, David fut très ému, il monta à la chambre au-dessus de la porte et pleura. Et en allant, il disait ainsi, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, fussais-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Pourquoi est-ce que David était si affligé, désespéré à la mort d'Absalom, alors qu'il n'avait pas été à la mort du petit bébé? Absalom était perdu. Il ne dit pas, je m'en irai vers lui. Absalom était perdu. Alors, quand un enfant s'en va auprès du Seigneur, on peut pleurer certainement, mais il y a la consolation profonde. Qu'il est sauvé, si on avait constaté la foi chez lui ou s'il était petit. Mais si un enfant qui s'est détourné, qui n'a pas voulu suivre le Seigneur, répondre à son appel, s'en va, c'est une douleur beaucoup plus grande. Que faire? David n'a pas su élever ses fils. Au lieu de reprendre Absalom quand il avait tué ou fait tuer son frère Amnon, il l'a baisé. Quand Adonijah faisait ce qu'il voulait, son frère ne l'avait jamais repris. Et Adonijah sera la 4e brebis. C'est très solennel la manière dont on élève ses enfants avec le Seigneur. Nous avons dans le schéma le nom du roi Akab. On aurait pu mettre le nom du couple
à Cap Jézabel, qui ont été des chasseurs.
On le voit au chapitre 18, un roi, lorsque Abdias dit que le roi a fait rechercher partout dans le royaume, a fait dans le fond chasser, pourchasser Élie. On le voit aussi au chapitre 19, lorsque Jézabel pourchasse Élie. Mais en face de ce chasseur, ne peut-on pas dire que Dieu aurait souhaité voir un berger? Nous savons qu'Élie est le prophète du jugement et qu'Élisée a été le prophète de la grâce. Mais il est intéressant de voir que au moment où Élie est découragé, Dieu va prendre soin de lui d'une manière tellement particulière que c'est celle d'un berger vis-à-vis d'une brebis malade. Élie va jusqu'à Beersheba et il laisse son serviteur, il va plus loin et puis il se couche, manifestement désirant la mort. Un ange va venir pour le faire manger. Et puis Élie se lève, il se recouche, il dort. Ensuite c'est l'ange de l'Éternel. Et on le sait que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est préfiguré le Fils de Dieu, qui va s'occuper de lui. Avec combien de soins? Lève-toi, mange. Et puis il mange, et puis il marche 40 jours, et il arrive en Horeb, la loi. Et dans cette montagne, Dieu va se révéler à lui dans la voix douce et subtile. Mais que ce soit avant la voix ou après la voix, c'est ce que nous avons dans 1 Roi 19, au verset 10, et ensuite au verset 14, nous avons exactement la même déclaration. Élie est totalement insensible à la révélation de Dieu. Il reste Élie, le juge, celui qui est là et qui a prophétisé le jugement d'Israël, celui qui a égorgé les prophètes de Baal. Alors Dieu va lui dire, mais tu sais, tu n'as pas le droit de dire « je suis resté seul » et d'accuser les autres. Je me suis, pour ainsi dire, conservé un troupeau de 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il leur faudrait un berger, ce n'est pas dit, mais je me suis conservé un troupeau de 7000 hommes. Et alors, Élie doit entendre au verset 16, « Tu loindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. » Il y a des moments où Dieu nous demande de prendre conscience d'une responsabilité de berger que nous devrions accomplir. Que ce soit dans le cadre de l'Assemblée, que ce soit dans le cadre de nos familles, il ne faut pas être insensible à la voix douce et subtile. Élie est un immense homme de Dieu, mais dans les circonstances du chapitre 19, il a failli. Gardons-nous de rester insensibles à la parole de Dieu.
J'ai entendu des différents caractères d'un berger et aussi du chasseur. Et n'est-ce pas aussi que la patience est ce qui doit caractériser un berger? En contraste d'un chasseur qui est téméraire. Et c'est intéressant de voir quand on compare Nimrod et Abraham. Après le déluge, Dieu cherche un homme et il veut bâtir une ville pour qu'il y ait un lieu où il peut avoir communion avec cet homme. Et il choisit Abraham. Et nous savons qu'en Hébreux 11, nous avons ce verset, quoique je crois qu'on l'a dit cette semaine, peut-être qu'Abraham n'a pas réalisé ce que c'était. Hébreux 11, verset 10, « Car il attendait la cité qui a des fondements, laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. » Dieu a choisi un homme, Dieu voulait bâtir une ville. Eh bien, Satan choisit aussi un homme et veut aussi bâtir des villes. Et l'homme de Satan, c'est Nimrod, qui était un semi-dieu, il semble, qui était adoré. Et Nimrod, nous l'avons lu, a bâti Babylone et il a bâti Ninivée aussi. Des villes qui ont été connues pour leur caractère de révolte contre Dieu. Eh bien, j'ai une fois lu la remarque que Satan cherche à copier Dieu et Satan cherche à travailler plus vite que Dieu. Parce qu'Abraham, il a été choisi, mais combien d'années est-ce qu'il a fallu jusqu'à ce qu'Abraham déjà soit devenu un peuple, n'est-ce pas? Et après, combien d'années jusqu'à ce qu'ils aient été libérés de l'Égypte pour aller en Israël? Et combien d'années jusqu'à ce que la ville que Dieu avait voulu choisir, Jérusalem, a été bâtie? Et ce frère qui écrivait cet article a fait une comparaison. Eh bien, l'homme, sous la guise de Satan, qui serait plutôt un chasseur, il construit avec une planche, et l'homme qui est dépendant de Dieu, il construit avec semence, a seed, comment est-ce qu'on dit, hein? Une semence, une graine. Eh bien, avec une planche, on peut bâtir très vite, et l'édifice est là, et si on la peint bien, c'est quelque chose qui est très beau. Mais il y a déjà la mort dans l'édifice, parce qu'il va se détériorer. Et nous voyons que Dieu prend son temps pour bâtir. Et on bâtit avec une semence, et il faudra du temps jusqu'à ce que l'arbre pousse, mais il y a la vie dans cet arbre, n'est-ce pas? Et finalement, nous voyons que la rapidité avec laquelle Satan a pu bâtir ces villes, Ninive et Babel, eh bien, ces villes ont été détruites. Mais nous savons que Jérusalem, c'est la ville que Dieu n'a pas seulement choisie, même s'il fallait bien plus longtemps pour la construire, mais elle sera la ville où le nom de l'Éternel sera glorifié, même dans les temps à venir, où il y aura la paix sur cette terre. Et nous pouvons apprendre aussi quelque chose de pratique. Souvent, on aimerait que les choses vont vite. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps de instant, the instant coffee, the instant camera. Il faut que ça sorte tout de suite, n'est-ce pas? Tout doit aller très vite. Et c'est un peu le caractère du chasseur, n'est-ce pas? Mais Dieu aimerait qu'on ait le caractère de patience qui nous motive. Et si nous ne voyons pas les choses se développer aussi vite que nous aimerions, ayons la patience. Car un berger, n'est-ce pas, doit être patient.
Est-ce que oui? Comme berger d'un troupeau souvent difficile à conduire, n'a pas fait preuve tout au long de sa vie de patience vis-à-vis d'un peuple rebelle. Formé comme berger à la montagne de Dieu à Horeb, derrière le désert, berger du troupeau, quels sont les qualificatifs que l'Esprit de Dieu nous donne concernant cet homme à la fin de sa vie? Homme de Dieu, Deutéronome 33. Chapitre 34, Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel prenant lui-même soin du sépulcre de son serviteur. 34, verset 10, il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face. Et puis alors, quelle succession à laquelle Josué est appelé, l'Éternel se plaît à lui redire. Au début de son service, il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, etc. Que Dieu se plaît à honorer celui qui a été le fidèle berger, fidèle conducteur de son peuple pendant de nombreuses années.
Romains chapitre 12, verset 12, « Patient dans la tribulation, ajouté tout de suite après, persévérant dans la prière. » C'est bien ce qui a caractérisé Moïse et ce qui pourrait nous caractériser aussi.
Un frère a fait la remarque qu'on peut être facilement et successivement à double face. Et on peut manifester les caractères de chasseur. Et on peut les trouver, malheureusement, parmi les frères et les sœurs. Et la question que j'aimerais poser, c'est quand on rencontre de telles manifestations, comment le berger, celui qui désire manifester ses caractères, peut rencontrer de telles manifestations? Comment cela se traduit dans la pratique? Et je le dirais d'être un petit peu avec ce verset qui nous a dit plusieurs fois à propos de la brebis forte et de la brebis grasse. Le Seigneur dit, je la détruirai, il prend les choses en main. Mais dans la pratique de notre vie, de relations entre frères et sœurs, quand ces choses se manifestent, comment faire face? Et comment faire face quand nous sentons que dans le troupeau, parmi nos frères et sœurs, plusieurs sont blessés ou risquent d'être emportés par ce qui se traduit? Les titres qui nous ont été présentés, il y a peut-être, je ne sais pas, en Joseph, avec ses frères, les applications, la façon dont Joseph a réagi, qui nous peuvent être utiles à ce sujet-là.
Chapitre 6 de 2 Corinthiens, il nous est dit, « En toutes choses, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience. » Ensuite, il y a une longue énumération de tout ce qu'un serviteur peut rencontrer. Puis au milieu du verset 8, « Dans la mauvaise et dans la bonne renommée. » Alors, cette attitude de chasseur envers un serviteur, c'est de lui faire donc une mauvaise renommée. Nous recommandons par une grande patience dans la bonne et dans la mauvaise renommée. Notre frère parle de frères au caractère de chasseur contre des frères qui ont celui de berger. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Le chasseur s'oppose donc à celui qui a un caractère de berger. Et il nous est dit que, comme serviteurs de Dieu, nous recommandons par une grande patience dans la bonne et dans la mauvaise renommée. Alors celui qui est l'objet de critiques, de dénigrement, de sanctions même, il a une mauvaise renommée. Mais est-ce qu'il doit, par rétorsion, agir comme chasseur? Ça a quand même été sévère envers les Corinthiens, certainement. Surtout à la fin de la deuxième épître. Si je viens, je n'épargnerai pas. Mais c'était un apôtre avec toute son autorité.
Il parle dans le cadre d'une assemblée différents types de chasseurs. La réaction est peut-être différente vis-à-vis des uns et des autres. Dans l'épître à Tite, il me semble qu'il y a deux types de chasseurs qui sont mentionnés et deux réactions différentes. Tite 1, verset 10. Il est parlé d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs. Alors là, on fait des beaux discours, on essaye d'attirer les gens à soi, de séduire en fonction de nouvelles idées, peut-être des choses nouvelles, des pensées qui sont attirantes, attrayantes. Eh bien, ceux-là, l'apôtre dit, il faut fermer la bouche. Verset 11. Il dit au verset 13, reprends-les vertement, afin qu'ils soient sains dans la foi. Il y a une attitude ferme qu'il faut avoir de la part du surveillant, de celui que le Seigneur a placé là avec cette responsabilité. Et au chapitre 3, il y a un autre type apparemment de chasseur, c'est le sectaire que nous avons verset 10. Celui qui alors attire autour de lui veut essayer de diviser, celui qui veut s'approprier. Ça, c'était une des caractéristiques que nous avons compris dans le chasseur, celui qui s'approprie sa proie, la domination, l'égoïste. Le sectaire, eh bien, alors celui-là, la situation est encore plus claire. Après une première et une seconde administration, il faut le rejeter, sachant qu'un tel homme est perverti et pêche, étant condamné par lui-même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres types de chasseurs, et peut-être qu'on ne veut pas passer la soirée à s'occuper des chasseurs dans l'assemblée, mais ce sont peut-être deux expressions utiles.
Il s'agit de vains discoureurs et séducteurs, ceux de la circoncision, qui sont donc des fausses doctrines, des faux enseignements amenés dans l'Assemblée. Alors, deuxième épître de Jean dit aussi, ne le recevez pas. Dans le cas du chapitre 3, rejette l'homme sectaire, celui qui veut donc faire une école pour rassembler autour de lui quelques personnes ou plusieurs, les séparer de l'Assemblée et... Il ne dit pas que l'enseignement soit nécessairement faux, mais des enseignements particuliers en tout cas. Mais ce n'est pas tout à fait ce que notre frère avait en vue, je crois. C'était l'opposition à un service pour le Seigneur.
Un frère pense qu'il a un service pour le Seigneur, il l'exerce. Un autre frère vient lui dire, non, ce que tu fais n'est pas bien. Alors l'un a le caractère de berger, puis l'autre de chasseur. Pas si c'était ça l'idée. Mais...
Nous rencontrons malheureusement, et nous en sommes quelquefois les auteurs, des comportements qui s'apparentent à celui du chasseur. Et comment pratiquement faire face pour que le Seigneur soit honoré, pour que cet esprit-là n'ait pas le dessus. C'est certain que ce n'est pas en étant un chasseur quand même. Quand on sent en plus que la parole appelle des frères et des sœurs qui n'ont pas beaucoup de force, qui sont en danger, quelle attitude avoir vis-à-vis de tel comportement?
Surmonte le mal par le bien. Il faut construire, apporter le Seigneur, apporter de la farine, dit notre frère, quand il y avait la mort dans la marmite.
Je me demande si avant de terminer, nous pourrions faire aussi encore le point qu'il y aura un temps où celui qui était le bon berger deviendra lui-même un chasseur de ses ennemis. Je pense au psaume 45, car les temps vont changer, n'est-ce pas? Nous vivons maintenant dans un temps dans lequel c'est le temps de la grâce, il faut de la patience, n'est-ce pas? Mais le temps va tout à coup changer. Et quand on pense au psaume 45, verset 5, « Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, dans le cœur des ennemis du roi. » Et en Apocalypse, chapitre 19 aussi, où nous voyons l'apparition en gloire, en jugement du Seigneur Jésus, nous lisons verset 15, « Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il en frappe les nations. Elle lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est important que nous sachions aussi, que nous nous rappelions que ce ne sera pas toujours le temps comme c'est le temps présent, le temps de la grâce. Il va tout à coup y avoir un changement radical. On lit même en Apocalypse chapitre 6, de l'agneau qui est en fureur.